Première table ronde, l'accumulation des erreurs.
On est dans ce débat qui parle à tout le monde. Et oui, le logement, c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Un magnifique panel encore, puisque nous avons la chance d'accueillir le président de Nexity, Alain Dinin. Bonjour.
Bonjour.
Merci de participer à cette table ronde. Également, Loïc Lefloc-Prigent, PDG de LLFP Consulting. Les adhérents d'éthique vous connaissent bien, puisque vous étiez au colloque précédent. Bonjour, Loïc Lefloc-Prigent. Et également pour la mixité, notamment un magnifique panel où les femmes sont en puissance. Adélaïde Motte, elle nous vient directement de l'IREF. Adélaïde Motte, bonjour.
Bonjour.
Et en plateau, Annie Lesourd, présidente de Parkland Immobilier International. Bonjour,
bonjour.
Madame Lesourd. Bienvenue. Alors, lorsque je regarde les chiffres de Nexity, hein, chiffre d'affaires sur l'année passée, 4,6 milliards d'euros, plus 5%, un pipeline de 20,7 milliards d'euros. Alors, l'immobilier est peut-être tué, mais vous êtes bien résilient et je m'en félicite. Alors, monsieur Dinin, on est dans une période tout à fait sensible dans l'entre-deux-tours. Compte tenu de l'expérience de toutes ces années, quel est, d'après vous, quel bilan dressez-vous tout simplement ?
Alors, merci pour Nexity et pour la résilience de Nexity. Le sujet qui est posé, qui est le sujet du logement, sur lequel les deux intervenants précédents et les intervenants qui vont suivre sont largement intervenus sur les problèmes techniques, etc. Je pense qu'il faut le remettre au final, puisqu'on est entre deux tours politiques et qu'on va avoir à choisir. Enfin, le choix est facile, hein. Il faut voter Macron, donc il n'y a pas de sujet, mais
Au
moins ça s'est fait.
C'est fait.
Le choix politique, c'est de vivre ensemble. En fait, ce dont on parle beaucoup, quand on parle pouvoir d'achat, ce sont les inégalités. Lorsqu'on parle natalité, démographie, ce sont la mixité. Et lorsqu'on parle des difficultés de certaines zones par rapport à d'autres, comme l'évoquait tout à l'heure le président de la FNAIM, eh bien, effectivement, c'est une notion vivre ensemble. Donc, j'ai plutôt, moi, une perception. J'aimerais bien avoir, dans cette petite partie-là, plutôt un discours de nature politique.
Mais...
Est-ce que au fond, la problématique du logement, c'est pas l'acmé de toutes les situations? C'est un sujet de pouvoir d'achat, c'est un sujet de mixité de population, c'est un sujet de segmentation. Prenons un exemple, on parle toujours du logement ancien, du logement neuf et du logement social. Tout ça, on s'en fiche. La question, c'est comment on va vivre ensemble, comment on va avoir, d'ici 10 ans, 54% de la population qui va être monoparentale ou personne seule. Comment va-t-on faire pour s'occuper des 27% de personnes qui auront plus de 65 ans dans la population? Comment traite-t-on les étudiants, les jeunes qui doivent arriver? Est-ce que le problème, c'est la propriété? Comment on travaille sur le parc existant? Voilà des sujets de nature profondément politique. Et mon regret, mon sujet, parce qu'on personne ne veut tuer l'immobilier. En fait, je vais vous dire un truc, personne n'y comprend rien.
C'est complexe.
Mais en fait, voilà. Et la bonne remarque, c'est celle-là. C'est complexe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vouloir réfléchir immobilier, une fois qu'on aura posé les éléments d'enjeu, tout à l'heure avec madame, les problèmes de normes, il y en a trop. Tout à l'heure avec monsieur Lefloc-Prigent, les problèmes de fiscalité. Avec madame, le problème de la demande. Le sujet, c'est pas celui-là, c'est comment travaille la ville. Alors, pas de croissance, pas d'étalement urbain, pas d'artificialisation des sols, pas de densité. Et en même temps, une démographie en croissance, 2 millions de personnes de plus, un manque de logement. Et quelque part, c'est pas un marché, le logement. Hein. C'est un besoin de première nécessité. Votre intervenant tout à l'heure l'évoquait, c'est un sujet profondément humain. J'ai besoin de me loger. Et si je me loge avec des gens de populations de nature différente, si j'ai l'accès à l'éducation, à la ville, au transport, à la santé, etc., eh bien, j'ai une meilleure harmonie, une meilleure façon de regarder les sujets. Et ce thème-là n'a jamais été pris en compte par les politiques depuis 40 ans. À chaque fois, ils ont eu des grandes intentions. Donc, un coup, c'est... pour faire 500 000 logements par an, pour équilibrer. Un autre coup, c'est il faut tous les Français doivent être propriétaires. Un autre thème, c'est que du logement social. Troisième thème, ça sera comment on va traiter les problèmes d'immigration. Bon, mais au final, il faudrait quand même que le président de la République demain matin nous dise, je veux quoi comme France de tous loger, tous bien loger. Et une fois qu'on a posé, vous savez, c'est l'histoire du sage, la lune et le doigt. Oui. L'imbécile regarde le doigt et le sage regarde la lune. Moi, ce que j'attendrai aujourd'hui du président, et après, effectivement, il faudra avoir un ministère plus global, etc. Mais le ministre, il ne fait comme nos collaborateurs, ne font que ce que leur disent vers quoi on les pousse. Où est-ce que nous avons entendu, et prenons les deux derniers candidats en lice, où est-ce que nous les avons entendus parler du logement? On parle du pouvoir d'achat, après que vous ayez payé vos coûts d'énergie, 45% de votre pouvoir d'achat est passé dans le sujet du logement. Il y a 20% de la population, un Français sur cinq, qui après avoir payé son logement et ses coûts d'énergie, est en reste à vivre, considéré comme pauvre. Ça n'est pas supportable et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc la politique du logement, c'est la politique de la ville, mais c'est aussi la politique du pays. Et ce sujet-là, et je trouve que faut pas le prendre par le côté logement ou par le côté technique, parce que effectivement, immédiatement, on devient extrêmement complexe. Et alors, il y a des solutions, mais on les connaît tous. Mais c'est une litanie de sujets. C'est un métier, c'est un sujet qu'il convient de réguler comme on régule la santé, l'éducation, des sujets majeurs. C'est un bien de première nécessité. Et tant qu'on n'aura pas compris ça dans ce pays, on pourra toujours se dire ça marche pas l'immobilier. Et pour Next City, dans ces situations-là, c'est pas si mal parce qu'au fond, l'offre et la demande sont déséquilibrées. Donc Next City, j'ai de l'offre, j'ai une demande, voilà, je trouve le client.
C'est vrai que l'excuse était un peu facile pour tous ces candidats de dire que le logement c'est technique et on se rend compte qu'il est absent du débat alors qu'il y a tellement d'enjeux. Vous, effectivement, Next City, qui construisez dans toutes les régions de France et ailleurs, et vous sentez bien, n'y a-t-il pas un décalage entre voilà, la parole publique et vous, l'immobilier, les acteurs, vous êtes dans le tangible, dans le concret du bâtiment, c'est des programmes d'exécution, c'est des emplois. Alors, si je prends un exemple, au municipal, il y avait une poussée écologique. Est-ce que ce sont juste des paroles ou les villes, vous sentez qu'elles se transforment vraiment à l'indinin, vous qui êtes au contact ?
Alors, non, ce ne sont pas des paroles, mais là aussi, je voudrais éviter pour moi ce matin de rentrer dans trop de sujets techniques. Mais d'abord, effectivement, les maires ne sont pas ni bâtisseurs ni pas bâtisseurs. Ils ont besoin de faire vivre leur ville et donc ils savent qu'ils doivent construire des logements. Après, l'écologie vue par « il ne faut pas monter, il ne faut pas s'étaler », à un moment donné, ben, je ne sais pas très bien où je construis. L'écologie vue du sens climat, du sens bas carbone, et Next City vient de décider, par exemple, on vient de signer un Green Deal avec le ministre du logement et de l'écologie, nous engageant à rénover 10 000 logements, parce qu'on est aussi administrateur de biens, on est syndic, on a beaucoup de sujets de cette nature-là. On gère 1 million de personnes dans des immeubles, on gère 20 millions de mètres carrés de bureaux, donc on a une perception de la ville qui est un peu plus large que le seul logement. Ces sujets-là doivent être pris en compte, mais d'abord une dimension politique. Et il faut bien comprendre qu'avec l'accumulation des normes, avec l'inflation, avec les taux d'intérêt, avec les réglementations qui viennent empêcher les particuliers de pouvoir acheter, les investisseurs d'être considérés comme des agents économiques. Lorsque je ne trouve... En France, aujourd'hui, excusez-moi de rentrer dans une partie un peu technique du sujet.
On est là pour ça, oui.
La production de logements neufs, c'est ce qu'on appelle de la vente en l'état futur d'achèvement. Pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, comme moi, j'appelle ça de la vente sur plan. Voilà. La vente sur plan, ça veut dire que je mets en vente et je cherche un client. Si je n'ai pas le client, je ne mets pas en chantier. Donc nous n'aurons pas en France de bulle immobilière. Nous n'aurons pas plein de stocks de logements.
Pas de subprime, alors.
Et si, des subprimes, c'est autre chose. Ça, c'est le surendettement des ménages. Alors là, la gouvernance européenne a fait le nécessaire pour contenir le surendettement des ménages. Mais le sujet, c'est que beaucoup de nos hommes politiques ou même de spécialistes ne comprennent pas que le marché du logement neuf, c'est un marché de flux. Et que donc, si je n'ai pas vendu, pré-vendu, je ne construis pas. Et donc, je n'aurais pas, à un moment donné, beaucoup d'offres qui feraient qu'en face d'une demande qui serait plus faible ou moins solvable, les prix pourraient baisser. Donc, quand je regarde les deux équations ensemble, une augmentation de la demande, un besoin de se loger, une augmentation de la démographie, entre autres, quand même principalement dans les grandes zones urbaines. Bien sûr que tout le monde veut habiter à la campagne, mais enfin, habiter à la campagne, ça impose de voitures, ça impose des problèmes en matière de santé, en matière d'éducation, etc. Donc, principalement dans les grandes villes. Si je ne construis pas de logement neuf parce que je n'ai pas le client, parce que ou c'est trop cher à fabriquer, ou c'est trop compliqué, ou peu importe, eh bien, la demande se reporte sur l'ancien, et l'ancien continue de monter. C'est ce que madame, ses intervenants tout à l'heure interviendront là-dessus. L'ancien a continué de monter. Jusqu'au moment où, quand même, tout peut monter, mais les gens ne peuvent plus acheter. Et donc, on se retrouve à un problème de solvabilité. Dans le mandat précédent, mais le président de la République aussi précédent, beaucoup ont essayé d'augmenter l'offre de logements. Ce qu'il conviendrait de faire, là, pour être constructif dans les prochains mois, c'est de faire baisser le prix du logement. Et faire baisser le prix du logement, je vais vous envoyer la balle dans deux secondes, c'est d'arrêter de faire de simplifier les normes. Faire baisser le prix du logement... Peut-être que M. Le Floch-Prigent interviendra là-dessus tout à l'heure. C'est de se poser la question... Non, parce que c'est un tout. C'est de se poser la question de la fiscalité. Et qu'effectivement, Jean-Marc Thorion le citait tout à l'heure, l'État subventionne le logement, les aides au logement, dont l'APL, hein, il ne faut pas se tromper d'ailleurs de ce qu'on met dedans, pour 36 milliards par an, c'est considérable. Mais l'État encaisse 78 milliards par an de recettes fiscales. Et quand vous regardez le prix d'un logement, c'est du foncier, donc il faut le réguler. Les coûts de construction, on ne va pas pouvoir beaucoup intervenir parce qu'il faut faire du développement durable. Puis en plus, on dépend d'une mondialisation dont on voit la fragilité. Et puis ensuite, c'est un prix de vente. Donc moi, je le dis très clairement pour les promoteurs et pour certains agents, je suis prêt à plafonner mes prix de vente. Mais en échange, il faut aussi que l'État fasse son boulot. On est tous d'accord. Alors, permettez-moi une petite plaisanterie, puis je vais en terminer, parce qu'il faut laisser de la place.
Une plaisanterie, il y a toujours de la place
voilà,
pour une
petite plaisanterie. Enfin, une plaisanterie. qu'est-ce qui est meilleur pour la santé, un carré de sucre ou un logement? Pour la santé de nos familles et de nos vies, on sait tous que le sucre a trop d'eau, c'est pas très bon. Alors, le sucre, la TVA, c'est à 5,5. Le logement, c'est à 20%.
Ah ouais.
Voilà, je dois juste poser l'erreur à cet endroit-là.
Ben, il faut arrêter de casser du sucre sur le dos des acteurs de l'immobilier. Je me tourne vers vous, Adélaïde Motte, chargée d'études chez IREF, parce qu'on a eu des candidates, notamment une candidate, Valérie Pécresse, qui n'a cessé de dire qu'il y avait trop de normes. Et vous, chez l'IREF, vous dites effectivement qu'il y a tellement de normes que les investisseurs n'ont même plus intérêt à construire de nouveaux logements. Donc c'est une partie du problème exposé très clairement par Alain Dinin, d'après vous ?
Exactement. En fait, en France, le ministère du logement est lié au ministère de l'écologie. Ce qui est un peu absurde parce qu'en général, quand ces deux domaines se rencontrent, ça fait des étincelles, ça fait même des champignons. En Nouvelle-Orléans, il y a une catastrophe climatique, suite à quoi de nombreux logements devaient être construits. Et donc là, vous avez Brad Pitt, l'acteur américain, on ne le présente plus.
Oui, non, ça va.
Qui arrive
il va rentrer d'ailleurs dans le studio.
Donc il arrive tel le Superman qu'il n'a jamais joué, il dit « je vais construire des maisons écologiques ». Donc vous avez des économies d'énergie, des matériaux durables, des maisons splendides, un tableau sublime. Aujourd'hui, sur 100 maisons, il y en a 6 encore debout. Ça, c'est un exemple parmi d'autres des ravages que les lubies de certains peuvent avoir sur les logements des autres. Donc, on va quitter l'Amérique et revenir vers.
Donc, vous lui dites, sois beau et tais-toi, quoi. Après, d'accord. Tom Cruise, autre chose.
Donc, exactement. Donc, on va quitter l'Amérique et revenir en France. En France, 1% du PIB va au logement, alors que la moyenne européenne est à 0,5%. Donc, en France, on dépense beaucoup pour le logement pour des résultats déplorables. Deux raisons à cela, les lubies écologistes et l'obsession du logement social. Les écologistes, vous me parliez de la construction. C'est très juste. D'abord, au niveau de l'étalement urbain. Alors, l'étalement urbain, je ne vais pas trop rentrer dans la technique.
Trop tard.
Parce que c'est vraiment technique. Mais l'IREF a écrit une note sur le sujet que je vous invite à aller consulter sur notre site, ireferop.org. Je vais rapidement résumer le sujet. La doctrine écologiste affirme que si on construit trop, ça artificialise les sols et que c'est donc dramatique pour les espaces naturels. Ils expliquent que vous avez l'équivalent d'un département en France qui est artificialisé tous les 10 ans. Donc déjà, c'est une première erreur, parce qu'en fait, c'était plutôt tous les 20 à 25 ans. C'est donc ce qui ferait 10% du territoire artificialisé depuis 2100. Mais à cause de cette erreur, les maires écologistes refusent que l'on construise chez eux. D'autres refusent pour des problèmes de taxe d'habitation. Comme on a enlevé la taxe d'habitation, ils ne reçoivent plus d'argent. Le logement, ce n'est plus synonyme de recette. Par contre, c'est toujours synonyme de dépenses pour les transports, etc. Mais certains maires écologistes ne veulent pas qu'on construise chez eux à cause de l'étalement urbain. Donc résultat, qu'est-ce qu'on fait? On construit en hauteur. Mais construire en hauteur, c'est plus cher. Donc du coup, on a des coûts fonciers qui se multiplient. Ils ont été multipliés par 6 depuis les 25 dernières années. Résultat, les logements sont trop chers et les ménages modestes s'éloignent des villes avec tout un tas de problèmes liés au transport. Vous en avez parlé. Donc déjà, quand vous voulez construire un logement, vous avez déjà quelques bâtons dans les roues. Bon, maintenant, vous l'avez construit. Bravo. vous n'êtes pas sorti d'affaires, il faut l'équiper et le rénover. Et là aussi, le gouvernement, les écologistes qui y sont et les écologistes qui y sont développent un certain nombre de normes, notamment sur le chauffage et l'isolation. Faites la connaissance du DPE, diagnostic de performance énergétique. Donc il est basé sur la consommation réelle du logement l'année d'avant. Vous ne pouvez aujourd'hui pas louer ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Le curseur des passoires énergétiques reculant d'année en année. D'abord c'était G, après c'était F. D'ici 2034, vous ne pourrez plus louer les logements classés E. Le problème, c'est que les coûts des travaux sont très très chers. Ça coûte 90 000 euros de faire passer un logement de E à A. Bon.
Et puis les artisans sont très occupés, c'est difficile d'en avoir aujourd'hui.
Exactement. Donc non seulement vous n'avez pas d'artisans, mais en plus quand vous en avez, ils sont trop chers. Donc du coup, les propriétaires ne peuvent pas faire rénover leur logement, d'autant plus que si par miracle ils y arrivent, après les loyers sont encadrés. Donc ils ne peuvent pas augmenter leur loyer à proportion de, de l'effort qu'ils y ont, de l'investissement qu'ils y ont mis. Puisque, encore une fois, ça dépend du diagnostic de performance énergétique. Mais comme le diagnostic de performance énergétique, c'est sur la consommation de l'an passé, si vous faites des travaux pour rénover votre logement...
Oui, je vous écoute, mais on va essayer de faire circuler la parole, mais même si c'est extrêmement intéressant.
Je termine. Mais si vous faites des travaux pour rénover votre logement, derrière, il faut quand même attendre un an pour que le diagnostic de performance énergétique soit mis à jour. Donc vous avez un an de perdu, si vous voulez. Je termine. En disant que, du coup, à cause de tout ça, les propriétaires ne veulent plus louer leur logement, puisque, en fait, ils n'y ont pas d'intérêt, ils perdent de l'argent. Merci. Donc, vous avez soit des logements vacants, 17% des logements sont vacants à Paris, ou bien ils vendent les logements. Et entre janvier et septembre 2021, le site seloger.com, que vous connaissez sans doute, a enregistré une augmentation des biens à vendre de 8%, parce qu'on ne les loue plus. Donc, les logements F et G, on les vend, tout simplement. L'autre option étant Airbnb. Ajouter à ça l'interdiction des chaudières au fioul sur laquelle je ne m'étends pas, tout simplement, c'est l'accumulation des normes qui fait qu'on ne peut plus louer les logements.
Merci Adélaïne, mode CQFD, quand on vous écoute, maintenant il faudra trouver les solutions. Puisqu'on en est dans des problèmes de normes, on va passer sur le terrain fiscal, puisque Loïc Le Floch-Prigent, vous maîtrisez parfaitement en tant que PDG de LLFP Consulting. Et c'est vrai que le gouvernement a des leviers formidables, il peut faire des incitations fiscales, rendre les choses plus difficiles, mettre des malus. Est-ce qu'en la matière, il a trouvé la martingale?
Écoutez, pas vraiment, on sait bien que... la fiscalité a toujours été un point sensible des Français qui aiment bien ne pas payer d'impôts.
Vous connaissez des gens à l'étranger qui aiment bien payer des impôts?
Les Français, ils ont quand même réussi à avoir tous les ans des revues qui disent comment ne pas payer d'impôts, comment essayer d'éviter les impôts, etc.
L'optimisation fiscale ou plus que ça, vous voulez dire?
Non, vous avez toutes les grandes revues, tous les grands hebdomadaires ont chaque année, depuis 20 ans, 30 ans, des placards en disant comment payer moins d'impôts, comment ne pas payer d'impôts. D'accord. Donc on voit bien. Et par conséquent, vous avez tout un ensemble de législateurs qui se sont mis à dire si jamais j'ai envie d'avoir une politique, il faut que j'ai une incitation fiscale qui permette de réaliser cette politique. C'est-à-dire que le béaba, c'est de dire puisque on est sensible à l'impôt, je vais essayer par la fiscalité de promouvoir une politique. Alors, on a eu ça, c'est relativement simple, sur la recherche, on a eu le crédit impôt recherche. Crédit impôt recherche, c'est vous faites de la recherche dans l'entreprise et vous avez un crédit d'impôt parce que vous faites de la recherche. Alors on comprend que la vertu, c'est de faire de la recherche. Bon, très bien. Alors maintenant, si jamais je regarde le logement et je dis, quelles sont les mesures fiscales qui ont été prises pour et qui incitent à quoi? Alors je reprends la liste. J'ai 10 incitations fiscales. Et au bout de ces 10 incitations fiscales, la loi Pinel, la loi Bouvard, la loi machin, la loi tout d'abord. Et je me dis, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais vous dire très franchement que je ne sais pas si Alain Dinan sait comment, quelle est la philosophie générale au bout de ces 10 incitations fiscales, mais moi, je n'ai pas trouvé. J'ai essayé.
J'ai une petite idée, mais on y reviendra tout à l'heure.
J'ai essayé, mais il va me dire. Moi, j'ai pas trouvé. Hein, donc, je suis complètement idiot. J'ai regardé ça, je dis, mais je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que je fasse du logement neuf? Est-ce qu'il faut que je fasse du logement? Ce que j'ai retenu quand même, c'est que, alors c'est rigolo aujourd'hui, c'est qu'il faut, si jamais je fais de l'EHPAD, alors c'est bon. Si je m'occupe des vieillards, ça c'est très bon, j'ai une incitation fiscale, et génial. Et puis, je lis la presse et je m'aperçois que c'est pas terrible. Alors, je me dis, non, ça a pas dû être ça, c'est pas ça qu'on a voulu.
Alors, vous voulez donc, dire que ça manque de logique fiscale, qu'on pourrait améliorer les choses grâce à l'outil de la fiscalité,
alors, donc,
c'est ça qu'il faut comprendre?
Je prends l'ensemble. Non seulement il n'y a pas de logique dans l'affaire, mais l'intention n'est pas claire dans même les dernières, la loi dite Pinel et la loi de Normandie, l'intention n'est pas claire. Et de toute façon, une fois que la mesure fiscale est prise, il n'y a jamais d'évaluation des effets de cette mesure fiscale. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on prend des mesures fiscales et on ne se dit pas, mais finalement, si jamais j'ai fait ça, quel résultat a été pris? Il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire qu'on a fait ça, et alors c'est bien, et alors les gens viennent avec leur petit panier en disant, alors si vous investissez de telle et telle façon, eh bien, vous allez avoir une incitation fiscale. Oh, merveilleux, alors je vais y aller. Et alors, le comble, c'est qu'à la fin, et je reprends ce que dit Madame Mott, c'est, on fait des lois avec une générosité confondante, et dans ces lois, on va avoir des trucs qui sont quand même liés au logement et qui sont également fiscaux. C'est-à-dire que en particulier la loi climat et résilience, qui a été considérée comme un grand succès, je dirais que dans l'industrie, elle fout le bazar, je comprends que dans le logement, ça fout le bazar, elle fout le bazar partout, et elle est complètement inutile, puisque on est en train d'essayer de voir chacun d'entre nous comment on peut éviter d'avoir les effets de la loi climat et résilience, parce que cette loi, de toute façon, ne permet pas de fonctionner valablement. Alors, moi, en tant qu'industriel, c'est relativement simple, c'est-à-dire, je considère que je n'ai plus le droit de faire de la relocalisation industrielle à cause de la loi climat et résilience, et par conséquent, tout ce qu'on me bassine en disant relocaliser, 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 il faut que je renégocie pratiquement partout, dans tous les endroits, si jamais j'ai envie de faire un malheureux bâtiment pour étendre un peu mon usine, c'est impossible aujourd'hui. Donc, le fait d'avoir des bonnes intentions, sans jamais d'anticipation et sans jamais de contrôle de ce qui a été fait, aussi bien sur les normes que sur la fiscalité, nous met tous dans l'embarras. Et cet embarras, nous le vivons aujourd'hui.
Alors, vous parlez fiscalité. Annie Lezour, présidente de Parkland Immobilier, je suis sûre que vous payez parfaitement vos impôts, et je suis d'ailleurs absolument pas habilitée à le vérifier et à le savoir, mais je fais la transition. Trêve de plaisanterie, vous êtes un artisan du luxe, hein, vous vendez des biens à partir de 2 millions d'euros. Alors, est-ce qu'il y a une crise dans l'immobilier? Mais de quoi Loïc Le Floch-Prigent, lui, fustige la fiscalité. Et vous, quel est votre point de vue?
Elle est énorme.
On l'a vu tout à l'heure.
J'étais très bien content d'entendre Mme Mott parler des normes, parce que c'est la fiscalité. Elle est énorme.
Tout à fait.
Oui, bonjour. Donc, je préside Parkland Immobilier International, qui est effectivement axé sur l'immobilier de luxe. On va essayer de définir après ce que c'est que l'immobilier de luxe, car ça n'est pas si facile. Voilà. Je retiens différentes choses des différents intervenants. J'ai trouvé que l'intervention de Monsieur Dinin, qui insistait sur l'inflation, c'était absolument capital. L'intervention de Madame Mott, qui souligne que 17% de vacances dans les logements parisiens, c'est gigantesque. Enfin, c'est hallucinant. Alors, pourquoi ce genre de choses? Bon, j'ai ma petite idée là-dessus.
Mais c'est ce qu'on veut savoir.
Voilà. À savoir qu'il y a eu des lois qui ont été votées, presque en catimini finalement, qui sur le moment n'ont pas fait parler d'elles et qui sont totalement contre-productives, notamment à la fin du mandat de M. Sarkozy, le président a cru bon de faire voter une loi pour allonger la durée de détention des biens immobiliers qui échapperaient donc au bout de 30 ans au lieu de 25 ans, je crois, à l'époque. À l'impôt sur la plus-value. Bon. Est-ce une mesure favorable à l'immobilier? Certainement pas. C'est absolument ridicule, parce que tout cela fige l'immobilier. Les gens qui se disent « Oh, mais je l'ai depuis 25 ans, il faut encore que j'attende 5 ans. » Bon, voilà. Au lieu de vendre et que ce marché soit fluide, c'est juste le contraire. Autre exemple, l'IFI. bon, c'est mieux que l'ISF, mais l'IFI, pour ceux qui n'ont que du patrimoine immobilier, je ne vais pas vous rappeler très longtemps cette histoire de cette pauvre femme de l'île de Ré, qui n'avait rien demandé à personne, et sa maison, qui était une maison familiale, c'était son seul patrimoine, elle s'est trouvée obligée de payer de l'IFI, elle n'avait pas un sou pour vivre. Donc ce sont des mesures qui sont absurdes et parfaitement inégalitaires, compte tenu du fait que, maintenant je vais vous parler un petit peu des prix de l'immobilier, dans des villes comme Paris, sur la Côte d'Azur ou sur la Côte Atlantique, les prix ont été multipliés par 3 en l'espace de quelques années. Par conséquent, des gens qui, encore une fois, ne demandaient rien à personne, se trouvent assujettis à l'IFI d'une manière très importante. Donc, ça n'est pas juste. Et celui qui sera à 100 km de Paris, qui aura une maison splendide, peut-être ne payera pas d'IFI. Donc, ce sont des mesures qui sont contre-productives.
Et ces prix qui montent, effectivement, est-ce que ça fait fuir les jeunes? Ça rend l'accession à la propriété difficile.
Ils ne peuvent pas accéder à la propriété. S'ils n'ont pas des parents qui les aident au départ, c'est juste absolument impossible. Donc les prix sont devenus fous. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'immobilier de luxe ? Parce que je crois qu'on a une idée. Est-ce que c'est un studio à Paris qui va valoir 30 000 euros parce qu'il est aux Invalides et qu'il a un semblant de mini-terrasse ? Est-ce que c'est un appartement à partir de 200 mètres carrés qui va valoir très cher parce qu'il est très bien placé ? C'est un peu compliqué, parce que les critères, ça n'est pas forcément la surface. 200 mètres carrés dans une petite rue du 20e arrondissement au second étage, est-ce que c'est du luxe ? À mon avis, non. Bon. Par contre, comme je venais de le dire, 50 mètres carrés aux Invalides, c'est peut-être du luxe. Voilà.
Bon. Oui.
Et lorsqu'on fait des estimations dans l'immobilier qui sont toujours erronées parce qu'on ne peut pas réagir comme ça, c'est là où les professionnels ont leur mot à dire, parce que vous ne pouvez pas estimer le prix du mètre carré quand on dit mètre carré moyen, à 10 000 et quelques le mètre carré à Paris. Mais on confond un rez-de-chaussée sur cour qui va être à 7 000 du mètre avec le dernier étage du même immeuble qui sera en façade et qui vaudra peut-être 15 000 du mètre. Donc tout ça est complètement...
On va parler voilà. Des prix, effectivement. Voilà. En 2020, oui. Il y a eu plein d'évolutions, des tendances oui. Lourdes ou dents. Oui. En 2020, oui. On s'attendait à un exode urbain. Est-ce que le terme est pertinent ou pas trop fort? Partout, les prix montent. Alain Dinan, est-ce que vous voulez bien nous parler de la manière dont l'offre se reconstitue?
Alors l'offre de logements neufs, elle se reconstitue principalement dans les grandes zones urbaines parce que même si, et on peut le comprendre, on est tous envie d'habiter dans des espaces plus larges, d'avoir un terrain, d'avoir... Enfin, le Français naturellement rêve de sa maison. Bon, après quand même, il faut faire des additions, malheureusement. Il faut se dire, j'ai besoin de voiture, si j'ai des enfants en bas âge, il va falloir que je les fasse garder. Le télétravail, très bien, mais quand même, il faut que j'aille au bureau une fois de temps en temps. Et les transports que ça va impliquer, le coût d'énergie que ça développe. Si j'ai des sujets de santé ou même de plaisir et de culture. Bon, donc, la problématique, elle se resitue dans les zones urbaines. Alors, on peut sortir de la première zone urbaine dense, Paris intramuros, qui est effectivement trop cher pour 99% de la population, ou encore que ça pourrait s'arranger si on incitait les propriétaires, comme l'évoquait Madame Motte, à louer leurs appartements vacants et y trouver un intérêt. Donc, mais tout ça, ça se match avec la solvabilité de la clientèle. Il faut se rappeler qu'un couple avec un enfant, le revenu médian est à 3500 euros par mois. Ça veut dire qu'il y a la moitié de cette population qui gagne moins de 3500 euros par mois. Et que l'évoquait tout à l'heure M. Le Floch-Prigent, la fiscalité qui est l'aide de l'État, elle n'est d'ailleurs pas si élevée que ça, hein, parce que lorsqu'on parle de la fiscalité, des aides que vous évoquez, on parle de quelques dispositifs qui aident les investisseurs à venir dans le logement. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aider les investisseurs à venir dans le logement ? Je vais encore faire référence à Madame Motte.
C'est pas rentable.
Elle a beaucoup de chance aujourd'hui. Parce qu'elle a été très passionnante et très intéressante.
Arrêtez de draguer, mais on avance dans le débat.
D'abord, j'ai plus l'âge pour ça, mais en même temps, je trouve que ces remarques sont pertinentes. C'est que les propriétaires, ils n'ont pas d'intérêt à louer. Il n'y a pas de rendement locatif. Donc, à chaque fois que je mets une norme, à chaque fois, et que je limite la production de logements, où je ne fais pas quelque chose, où je ne réfléchis pas à quel type de logement, pour quel type de population, dans quelle ville. Eh bien, en finale, j'arrive à un logement qui est trop cher. Donc, les investisseurs ne peuvent pas acheter. Alors, je ne parle plus des primo-accédants parce qu'ils sont en train de disparaître. Comme le disait madame tout à l'heure, le jeune ménage, sans l'apport des parents, sans un apport conséquent et de plus en plus conséquent, parce que les règles viennent de changer et les normes pour éviter le surendettement font qu'aujourd'hui, un jeune ménage qui a moins de 35 000 euros de revenus ne peut pas acheter son logement. Mais d'ailleurs, on pourrait se poser la question, et je reviens sur le sujet politique, est-ce qu'on a besoin d'être propriétaire de son logement dans un monde en mobilité permanente ? Et où effectivement, je pourrais être le locataire de mon logement un peu cher avec des investisseurs qui seraient incités à louer. Et j'expliquerai tout à l'heure je pense qu'on peut éviter tous les dispositifs Pinel et autres, et Sensible Ouvert, etc. Ça peut se limiter, ça peut se terminer en deux secondes. Il suffit de faire un trait de plume sur un sujet, mais qui est là aussi un sujet éminemment dogmatique et politique de Bercy, mais je vais y revenir. Bon, pour dire à des gens, ben dans la ville où vous devez travailler, vous êtes locataire, et peut-être que si le loyer n'est pas trop cher et si les propriétaires sont incités à louer dans de bonnes conditions, eh bien, quelque part, je vais pouvoir me fabriquer un petit pécule qui me permettra d'avoir cette maison, résidence secondaire principale qui sera le futur. Le sujet de tous ces thèmes-là, c'est qu'au final, quand je regarde la demande, elle est en train de s'insolvabiliser, excusez-moi du terme.
C'est bien ça.
Voilà. Elle n'a plus les moyens d'acheter. Et elle n'a plus envie d'acheter celle qui en a les moyens. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On constate que dans les prochaines années, on va construire de moins en moins de logements, que le prix de l'ancien va plafonner et qu'on va avoir une population qui va être de plus en plus en déshérence. Et on va s'étonner après qu'il y ait 26% de la population qui n'aille pas voter et qu'il y ait 70 ou 60% de la population qui vote aux extrêmes. À un moment donné, il faut quand même se rappeler ça. Ce qui s'est passé là dans les derniers jours, c'est plus de 70% de la population qui se désintéresse parce qu'elle pense que de toute façon, ce n'est pas fait pour elle, ou qui est aux extrêmes parce qu'elle pense qu'il faut bousculer le système. Et au final, est-ce que le logement, c'est pas la ville, est-ce que ce n'est pas là que ça se passe ? Donc, pardon.
Oui. C'est exactement ce que je veux dire, Alain, excusez-moi de vous couper. C'est simplement que je pense que pour l'ensemble des activités humaines, en particulier tout ce qui est industriel et les entreprises, si jamais on n'arrive pas à ce que les jeunes ménages aient envie d'être à un endroit déterminé et puissent aller travailler, on va dans le mur. Voilà. Donc, c'est ça qui se passe aujourd'hui.
Voilà. Donc il faut baisser les prix.
Il faut baisser les prix.
Alors, OK, il faut augmenter la demande, ça c'est réglementaire, il faut inciter les maires à construire, etc. Bon, mais encore, ce n'est pas tellement le problème. Il faut faire baisser les prix. Alors, si je peux faire baisser les prix, ça veut dire que pour le faire, il faut que je régule. Je reviens sur les problèmes de fiscalité que vous évoquez, sur la détention longue, etc. Le terrain, ce n'est pas un bien comme un autre. Il est rare, il est cher, il ne doit pas être mis aux enchères. Il doit être plafonné en prix et il doit être mis en vente dès qu'il est constructible. Et il faut réguler ça. Ah oui, ben en face de ça, bien entendu, il faudra réguler dans l'autre sens, tout au bout, les prix, pour pas que les promoteurs ou les agents comme nous en bénéficient du fait que les prix de terrain soient bas. Et puis pour les investisseurs, on supprime tous les dispositifs fiscaux et on dit à l'investisseur, monsieur, vous êtes un commerçant comme un autre, vous êtes un agent économique comme un autre, et donc vos pertes, votre bien immobilier, vous pouvez l'amortir. Vos pertes, ce sont des revenus de votre activité, donc vous pouvez les déduire de votre impôt sur le revenu. Et quelque part, on va... Bon, ce qu'il faut voir, et je le dis, c'est que si j'enlève l'APL, qui est quand même une aide particulière au logement, qui est mal posée dans le budget, vous avez 18 milliards de subventions au logement et vous avez 78 milliards de recettes. Comment est-ce... par exemple, dans les 5 dernières années, les recettes fiscales de l'État ont augmenté de 20 milliards. Ben, je les retrouve dans les prix. Je ne sais pas comment faire. Donc, voilà, il faut que toute cette chaîne se mette à fabriquer du logement abordable et arrête en France. C'est un sujet. On arrête le fantasme de la propriété. Il faut être propriétaire de son logement, je vais vous dire quand, au moment de sa retraite. Quand les revenus baissent, 64, 60, 65, etc. Enfin, il faut arrêter de là aussi de raconter n'importe quoi. Il faut qu'au moment où les revenus baissent, vous n'ayez pas en plus votre loyer à payer. Donc, il faut devenir propriétaire vers 45 ans. Et il ne faut pas chercher à faire des jeunes ménages des propriétaires. Non pas qu'on veut les empêcher, mais tout simplement parce que c'est contre leur intérêt.
C'est contre leur mobilité.
Et contre leur intérêt. Voilà.
Et la mobilité est importante. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, lorsque l'on est embauché, on est embauché pas pour 45 ou 50 ans, on est embauché pour quelques années, on va bouger, on va faire... Bon. Mmh. Et qu'est-ce qui va être l'élément dominant ? Ça va être, est-ce que je peux me loger, quelque part, où je suis dans un environnement qui est correct pour ma femme et mes enfants, petit A, et quel est le dispositif de santé qui existe ? En ce qui me concerne, en tant qu'industriel, le problème de la maternité est essentiel. C'est-à-dire, quand on supprime une maternité, quelque part, on croit faire des économies. En fin de compte, on détruit complètement le tissu social, et on détruit la capacité de l'industrie de se mettre dans les endroits en question, et on détruit l'ensemble de l'offre logement correspondant.
Donc il y a un vrai sujet. Si vous le voulez bien, Loïc Le Floch-Prigent, en tout cas, à vous écouter, je ne sais pas s'il y aura un ministère du logement dans le prochain gouvernement, mais on voit que vous avez des pistes de réflexion. Vous seriez un très bon ministre du logement, j'ai l'impression.
Il ne faut pas de fiscalité,
il ne faut pas de ministère.
Le seul qui a eu un jour entre les mains suffisamment de poids pour traiter le sujet et permettre effectivement à ce que ce marché, pendant très peu de temps, se soit un peu régulé, c'était Jean-Louis Borloo, quand le président Sarkozy, à l'époque, lui a confié le logement, la ville, l'écologie, l'urbanisme et les transports.
Voilà, il faut un grand ministère.
Un ministère régalien qui vient contrebalancer une approche strictement budgétaire de Bercy, dont aujourd'hui on peut dire que les seuls qui ont fait... Alors, qui veut tuer l'immobilier en France ? Je vais vous dire, Bercy.
Bercy, oui.
Depuis 40 ans, Bercy. Absolument. Parce qu'on les a laissés faire tout ce qu'ils voulaient en matière de taxes, on les a laissés ponctionner l'immobilier, on leur a permis d'augmenter de 20 milliards les recettes fiscales sur le logement dans les 5 dernières années, et après on se dit, ah tiens, le marché n'est pas comme...
Et
10 incitations fiscales qu'on peut enlever.
Mais
je pense que jamais on enlève 10 incitations fiscales et qu'on fait la neutralité fiscale et qu'on recommence à avoir les investisseurs et à faire marcher le marché, justement.
Comme on ne va pas pouvoir augmenter les loyers, il va falloir dire aux investisseurs, vous faites un métier comme un autre, donc petit rendement, ça c'est vrai, mais quelque part, vous pouvez amortir votre bien, quelque part, vous pouvez déduire de votre...
Si on enlève quelques normes, c'est pas mal.
Alors, puisque vous avez parlé des maternités, on va donner la parole aux femmes, qui s'imposent également...
Physiquement, je voyais
qu'on me donne la parole sur la maternité, j'ai pas de problème.
Je voyais qu'elles étaient en déficit de temps de parole, on est dans une période électorale, donc je gère l'horloge, et puisqu'on parlait de chiffres, je me tourne vers notre économiste de l'IREF, effectivement, vous l'avez dit, le foncier est plus rare, les permis peu nombreux, la démographie augmente, les prix augmentent, on est en sous-offre. Cette équation, elle semble impossible. Qu'analyse l'IREF là-dessus ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
En fait, la question, c'est surtout qui peut faire. On a parlé du ministère du Logement et on se demandait si c'était vraiment nécessaire. Le problème du ministère du Logement, c'est qu'actuellement, c'est surtout une machine à logement social. Vous avez entendu à l'envi Emmanuel Vargon, ministre du Logement sous Macron, donc, expliquer qu'il fallait absolument plus de logements sociaux, que les maires qui ne voulaient pas en construire, on allait les y forcer, que quand même c'était un scandale. Bon, la personne habite à Saint-Mandé, voilà, bref. Il n'y a pas trop de logements sociaux. Le logement social est un système artificiellement maintenu en vie par l'argent du contribuable, en fait. Il y a 3 fois plus d'avantages fiscaux pour le parc immobilier public que pour le parc immobilier privé. Vous avez parlé, monsieur Dinin, des recettes que prenait l'État, et puis de ce qu'il redistribuait après, en s'étant servi au passage. Le logement social, c'est construit avec les ponctions sur nos livrets A, et l'État, c'est aussi construit avec les ponctions sur nos salaires. L'État reverse une partie des cotisations salariales et patronales à Action Logement. Action Logement étant un organisme qui construit des logements sociaux pour les salariés trop peu payés et qui donc peuvent pas se loger autrement. Sauf que vous aurez compris que les salaires sont baissés parce qu'il y a trop de cotisations salariales dessus. Donc du coup, ils sont pas assez payés. Donc du coup, ils doivent aller aux logements sociaux. Mais les logements sociaux ont été construits par les cotisations salariales. Voilà, donc on est dans un cercle parfaitement vicieux. Donc... Résultat, le logement social, en fait, c'est une partie de ce qui tue le logement. En 2016, la France construisait 40% des logements sociaux construits en Europe et on s'en félicitait, alors que justement, le logement social, ça fait partie du problème. Il est aujourd'hui passé d'exception à nécessité, ce logement social. À la base, c'est pour les 20% de personnes qui ne peuvent pas se loger autrement parce qu'elles n'ont pas assez d'argent. Aujourd'hui, le logement social, c'est 5 millions de logements, C'est 17% des résidences principales contre 3% en Allemagne et 3 Français sur 4 y ont droit. 3 Français sur 4 ont droit à un logement social.
Voilà.
Alors, merci.
Alors, on s'étrangle partout. Là.
Alors, oui, vous vouliez compléter.
Je termine rapidement. Et en fait, en plus de ça, vous avez un droit au maintien dans le logement social. L'âge moyen des occupants est de 50 ans. Et vous avez un taux de rotation très faible qui, en plus, diminue. Le taux de rotation, c'est donc le taux, si vous changez de logement ou pas, forcément. C'était 8% en 2020, c'était 10,3% il y a 10 ans, en 2011, contre 27% dans le privé. Donc, quand vous êtes dans un logement social, vous y restez. En partie parce que vous êtes mal payé et que donc vous n'avez pas d'argent pour aller ailleurs, mais en partie aussi parce qu'en fait c'est mal géré, c'est mal régulé. On ne vérifie pas assez si vous avez un salaire qui vous donne droit à un logement social. Et la Cour des comptes avait d'ailleurs pointé ces problèmes qu'on avait pointé d'abord, nous d'abord dans une étude là aussi.
Oui, il y a quelques députés qui ont eu des problèmes
aussi,
à cet égard.
Mais pas que. Enfin, il y a les députés, mais en fait c'est un. Vous avez aussi d'autres personnes qui, en soi, pourraient se loger ailleurs et qui se logent dans un logement social, qui, du coup, accessoirement, n'est pas disponible pour ceux qui en ont vraiment besoin.
Alors, une petite parenthèse s'impose, parce qu'on parle des difficultés. Il y en a dans l'immobilier, et l'immobilier de luxe affiche quand même une santé insolente, et tant mieux, on lui souhaite. Mais bon, il faut expliquer pourquoi vous étiez très véhémente ce matin, et en même temps, peut-être, c'est votre expérience de l'immobilier. Hein. Je le rappelle, le chiffre d'affaires lié aux ventes au-delà de 3 millions d'euros en France a progressé de 120% en 2021. C'est Daniel Féau, votre concurrent et ami qui le dit. Alors, vous pouvez nous parler de ce petit hiatus, et tant mieux.
Effectivement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit précédemment Jean-Marc Torollion, qui est pourtant président de la FNAIM, mais qui dit qu'il n'y a pas de choc d'offres. Et moi, je pense qu'il y a un choc d'offres. J'ai actuellement constaté qu'il y a un nombre de demandes absolument inimaginables, de personnes qui empruntent énormément, puisque les taux sont bas. Donc, elle paye sur 20 ans.
Ça n'a pas forcément duré.
Enfin, pour l'instant, c'est le cas. Même si ça augmente encore d'un ou 2%, ça n'est pas non plus dramatique sur 20 ans, je pense. Donc, il y a un choc d'offres actuellement, ce qui fait, évidemment, monter l'immobilier. Et quand on regarde en perspective ce qui s'est passé sur 40 ans, à l'époque, dans les années 80-85, les taux étaient de 13%, pour vous donner une idée des taux de l'époque. Aujourd'hui, ils sont à 1 et quelques pourcents. Eh bien, il est plus facile, je trouve, d'emprunter 100 000 euros à 13% que d'emprunter 400 000 euros à 1%. Parce qu'on a une dette qui est 4 fois supérieure, malgré tout. À l'époque, il y avait une inflation inimaginable, donc on empruntait à des taux très élevés. Bon, les salaires augmentaient, ce qu'ils ne font plus aujourd'hui, et on pouvait donc rembourser facilement. Et comme il y avait une inflation importante au niveau de l'immobilier également, eh bien, le patrimoine croissait en même temps. Oui. Je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Alain Dinin tout à l'heure, à propos de l'accession à la propriété des jeunes couples ou des... Voilà. Et vous disiez tout à l'heure, ce qui paraît raisonnable dans un monde idéal, qu'à partir de 45-50 ans, il faut commencer à se soucier d'être propriétaire d'un logement. C'est vrai, mais dans la réalité, je pense que c'est pas tout à fait exact. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes jeune, vous avez 40 mètres carrés, et c'est pas très grave. Vous êtes célibataire, bon, vous avez 40 mètres carrés. Ensuite, vous vous mariez, vous avez besoin de 20 ou 30 mètres carrés de plus. Vous revendez, vous rachetez, etc., etc. Et le patrimoine, ça se construit. Je connais peu de salariés qui, n'ayant jamais été propriétaires, seront capables, à 45 ou 50 ans, d'acheter 150 ou 170 mètres carrés. C'est très compliqué. Alors, parce que le patrimoine n'a pas grandi.
Si je peux me permettre, 150 ou 170 mètres carrés dans le luxe. Hein, parce que la taille moyenne d'un logement en France est 55 mètres carrés. La famille est en train de se réduire à moins de 2 personnes. Et donc, quand vous avez du monoparental ou de la personne âgée qui va représenter plus de 50% de la population, vous n'avez pas besoin de vivre dans 150 mètres carrés. Alors, je ne dis pas que c'est simple le sujet. Le thème, c'est que d'abord et avant tout, peut-être qu'avant d'être à 50 ans et de se poser la question de savoir comment je vais me mettre en retraite, il faudrait déjà que je me pose la question de savoir où et comment je vais pouvoir habiter quelque part. Et si vous me permettez de revenir sur le sujet du luxe et sur l'évolution des prix du luxe, etc. Il y a, on le sait tous, il y a une masse monétaire extrêmement importante dans le monde qui cherche à se poser sur des actifs.
Yes.
On voit le marché de l'art, on voit le marché de l'immobilier de luxe, etc. si on arrivait, alors on a le droit de rêver un peu, si on arrivait à orienter cette épargne vers de l'immobilier d'habitation à loyer modéré, je dirais, ou à loyer plafonné. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mme Motte, bien entendu, sur le logement social. Je dis aussi que c'est d'ailleurs une des perversions de notre système. C'est que d'avoir fait des logements sociaux puis des logements pas sociaux, ça a créé des blocs de population habitant dans des logements sociaux, des blocs de population habitant dans des logements non sociaux, qui pour beaucoup, pour des raisons d'urbanisme, de développement, de prix, etc., ont amené à ce que se fossilisent des populations dans des quartiers où effectivement ça serait beaucoup mieux de vivre
communautarisme
et de créer des sujets de communautarisme. On peut, j'évoquais les investisseurs privés, mais on peut aussi dire aux industriels et à l'économie financière mondiale, venez dans le logement, en contrepartie d'un engagement sociétal, il y aura une contrepartie financière intéressante, etc. Et peut-être qu'on pourrait se dire en matière de financement de l'immobilier que on ne devrait en France donner d'avantages fiscaux à quiconque s'il n'y a pas en contrepartie un engagement sociétal.
Mais là, alors, c'est possible,
qu'il soit, sociétal, qu'il soit écologique, qu'il soit urbain, etc.
Après, vous êtes d'accord avec ça ?
Après, je rappelle que la moitié de la population avec un enfant gagne moins de 3 900 € par mois, 3 500, pardon, moins de 3 500, la moitié de la population, que l'autre moitié est pour la grande partie propriétaire, et que le sujet, et on ne l'a pas évoqué, c'est l'étudiant. C'est la personne âgée seule, c'est...
Mais vous parlez d'investisseurs.
Non, je parle des gens, oui. Excusez-moi. Je ne parle pas d'une classe sociale, je parle des gens. Oui. Le sujet du pouvoir d'achat et du logement, le sujet du logement dans le pouvoir d'achat, c'est probablement la prochaine crise sociétale.
Absolument.
C'est probablement là que ça va péter le plus. C'est-à-dire, parce qu'un euro de plus sur l'énergie, quand les gens, ils en ont jusque-là, parce que leur loyer est un tout petit peu trop cher, ou parce que le logement qu'ils ont acheté, même avec des... là aussi, excusez-moi, mais ce n'est pas une opposition, c'est juste réalité
des sujets.
Non, pas du
tout, mais on ne parle pas
de
problème.
50
on
euros...
On ne parle pas tout à fait du même marché.
On parle pas du d'ailleurs, je ne parle pas du marché, si vous me permettez.
Voilà,
moi, je parle 50 euros de différence de mensualité. 50 euros de différence de mensualité sur 20 ans. C'est 2,5 millions de familles qui ne peuvent plus acheter leur logement. 50 euros. Alors, est-ce qu'il faut les amener à dépenser ces 50 euros de plus pour lorsqu'il faudra faire la rénovation énergétique, lorsqu'il faudra faire des transports, lorsque les enfants auront grandi et qu'il faudra leur payer les études, ils ne pourront pas payer. Et donc, ce sujet-là, ce sujet de société, moi, je souhaiterais que le président de la République le prenne en main, s'en occupe et régule. C'est un marché de régulation. Donc, c'est difficile, c'est impopulaire. Ça va obliger, non pas une réglementation administrative, mais une réglementation politique. Dire aux gens, votre terrain, c'est pas vous qui en créez la valeur, c'est la collectivité quand on vous donne un permis de construire. L'État, c'est un bien de première nécessité, la TVA doit être réduite, et l'ensemble de la chaîne doit devenir... Vertueux, c'est pas le terme, mais doit être contrôlé, régulé.
Voilà. Vous voyez bien que l'ensemble des mesures fiscales, je reviens aux mesures fiscales, qui ont été prises pendant les 20 dernières années, sont inopérantes, que si jamais on a une politique définie, on dit « voilà quelle est la politique que j'ai envie de poursuivre », et effectivement, la politique, c'est est-ce que les gens étudiants, les jeunes couples qui arrivent dans le ministère du Travail, etc., sont capables de se loger ou pas, c'est ça le sujet. Et si jamais on traite ce sujet, on traite différemment que de la façon dont ils traiteraient aujourd'hui, mais en particulier, on est obligé de revenir sur les normes écologiques, comme l'a indiqué Mme Motte, parce que ces normes écologiques conduisent forcément à augmenter l'ensemble des prix du logement et à rendre absolument impossible les jeunes générations à se loger. Et c'est ça que je vis aujourd'hui. Lorsque je prends un alternant, qu'est-ce que je fais ? Il est dans son école, il faut qu'il vienne quelque temps, quelque part. Près de mon usine, comment je fais ? Ces sujets réels qu'il faut que nous arrivions à poser et qui ne sont absolument pas pris en compte ni par l'ensemble des normes, ni par la fiscalité, ni par les différentes lois, et en particulier je prends la loi climat et résilience qui n'a pas regardé ce sujet.
Merci Loïc Lefort-Bréjean. Un mot de conclusion, Annie
Delors. Oui, merci. Oui, il y a différents marchés, évidemment, dans l'immobilier. Monsieur Dinin parlait des investisseurs en priorité. Moi, je parle d'une demande personnelle pour une résidence principale, de jeunes qui viennent de tout pays, puisque certains viennent d'Angleterre, d'autres reviennent de Hong Kong, enfin, il y a toutes les nationalités possibles et imaginables, de jeunes chefs d'entreprise ou de jeunes très actifs qui cherchent à revenir à Paris.
Ce ne sont pas forcément les mêmes dont on parle
à
l'aide.
Et s'offrir.
À 2 millions d'euros le logement, excusez-moi.
Il y a un marché très important. Bon, ouais. Voilà.
Et non, là, il n'y a pas un marché très important. Il y a énormément d'argent qui est prêt à se mettre là-dessus et qui n'a pas de raisonnement économique, qui a des raisonnements de protection. Oui. Dans une période d'inflation, je mets mon argent dans un actif
dont
je ne regarde pas l'économie du sujet.
Est-ce que ça n'est pas légitime?
Mais je n'ai pas dit que c'était légitime. J'ai dit simplement que.
Non, je dis que c'est marginal.
C'est marginal.
Excusez-moi.
Ça ne veut pas dire que c'est
pas intéressant. On dit que c'est marginal, on ne dit pas que c'est légitime.
Voilà. Alors, je reviens une seconde sur l'IFI. Est-ce que certains candidats, mais qui ont été éliminés, avaient parlé de retirer la résidence principale de l'IFI, ce qui me paraissait une mesure tout à fait normal, même obligatoire, et je ne sais pas ce qu'il en adviendra.
Voilà. Alors, un petit mot de conclusion avec Alain Dinin, le président de Nexity, parce qu'on a parlé de quantitatif,
il faut donner la parole à Madame Motte. Ça vous a dérangé pas?
Alors, Madame Motte, allez-y.
En fait, vous parliez des ménages qui ne revenaient pas de Hong Kong, cela existe, et il n'y a vraiment aucune raison de ne pas en parler, mais vous parliez de ceux qui ne reviennent pas de Hong Kong, eux. Et donc, ils cherchent une location plutôt en général. En fait, pour cela, le principal, c'est que l'État arrête de s'en occuper. Vous avez parlé des engagements sociétaux. Alors, c'est très sympa de mettre un engagement sociétal sur un appartement. Mais d'abord, ce n'est pas à l'État de le faire. Ensuite, ça existe déjà. Et enfin, ça ne convient pas à tout le monde. Ça convient peut-être à un étudiant ou à un jeune professionnel. Un couple qui a un enfant qui est à une heure de son travail, croyez-moi, il n'a pas envie de prendre un engagement sociétal en plus. De plus, alors, en fait, ça existe déjà. Encore une fois, il y a plein d'associations qui vont vous dire on vous donne un appartement et puis en échange, on vous le met à pas très cher, et en échange, vous travaillez avec nous. L'État n'a absolument pas besoin de s'en occuper.
Merci Adeline Motte. C'est la fin de ce panel. Jean-François Copé attend derrière IPIEF. Une phrase, mon cher Alain Dinin. On a beaucoup parlé des grandes masses, sur la qualité, les évolutions ont changé. On ne construit pas de la même manière. Je vous laisse le mot de la conclusion.
Oui, alors, je ne vais pas rentrer sur on ne construit pas de la même manière, parce que ça traite des sujets matériaux, écologie, etc., sur lesquels il faut travailler. Je voudrais juste te dire, je n'ai pas dit qu'il fallait un engagement social, il ne faut pas d'avantage fiscal sans contrepartie. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Mais on enlève la fiscalité, on s'en fiche.
Mais peut-être que le mot de la conclusion, ce serait juste de remettre ça dans un espace de temps. Oui. Transformer une ville, c'est 20 ans. Si vous changez de loi tous les 6 mois ou tous les 2 ans, vous lancez la machine, puis tout d'un coup vous l'arrêtez parce que tel ou tel député ou tel élément politique vient perturber le système. Donc au final, puisqu'on est là dans la période des vœux pieux, tout le monde fait des promesses, donc nous aussi on pourrait se faire demandons que s'il y avait une politique de la ville, je ne parle pas de politique du logement, s'il y avait une politique de l'urbain, du vivre ensemble, ce soit une politique qui soit née variature pendant la durée d'un mandat, dont j'aimerais bien moi aussi qu'elle soit plutôt de 7 ans, parce que comme ça on pourrait construire l'avenir. 5 ans, au bout de 2 ans, vous êtes déjà en période électorale, vous commencez à vouloir donner des gages à tout le monde et vous rajoutez un truc et vous l'enlevez. La durée, le temps, c'est important. Quand on travaille sur les populations, sur la démographie, on raisonne à 20 ou 30 ans. Une ville, ça se construit sur de longues périodes. Et je pense que Jean-François Copé, qui est maire de Meaux, pourra vous en parler mieux que moi.
Il a été élu en 1995 à Meaux, à 31 ans. Il a eu 20 ans et plus. Il va nous en parler des réalisations. Merci, messieurs, dames, d'avoir été nos invités. On continue tout de suite le colloque éthique. Et encore une fois, merci de votre attention à tous. Les enjeux, le débat, ce n'est pas fini, ça se passe sur Web Radio Édition.